Je vais donc te le dire. J'imagine que ce sont désormais des fêtes, des banquets, des réjouissances et des courtisanes chez celui qui a laissé ce tyran d'amour pénétrer dans son âme et en gouverner tous les mouvements. En peut-il être autrement? Chaque jour, chaque nuit, ne germera-t-il pas au-dedans de lui-même une foule de désirs indomptables et fort exigeants? Oui, Socrate. Ainsi, ses revenus, s'il en a, seront bientôt épuisés à les satisfaire. Tout à fait. Après cela, viendront les emprunts, suivis de la dissipation de sa fortune. Sans contredit. Et lorsqu'il n'aura plus rien, n'est-il pas inévitable que cette foule de désirs qui s'agite dans son âme, comme dans leur nid, pousse des cris tumultueux et que, pressés de leurs aiguillons et surtout de celui de l'amour, à qui tous les autres désirs servent pour ainsi dire d'escorte, il courra, ça et là, comme un forcené, cherchant de tous côtés quelque proie qu'il puisse surprendre par artifice ou ravir par force. Ah oui, certes. Ainsi, ce sera pour lui une nécessité de piller de tous côtés, ou d'endurer les plus cruels chagrins. Oui, il n'y a pas de milieu. Et comme les nouvelles passions survenues dans son cœur ont supplanté les anciennes, et se sont enrichies de leurs dépouilles, de même, quoique plus jeune, ne voudra-t-il pas usurper les droits de ses pères et mères, et, après avoir dissipé sa part, leur enlever leurs biens pour en faire largesse en son nom? Oui, cela est très vraisemblable. Et si ses parents ne lui cèdent point, n'essaiera-t-il pas, d'abord, contre eux, le larcin et la fraude? Oui, il le fera. Si cette voie ne lui réussit pas, n'aura-t-il pas recours à la rapine et à la force ouverte? Je le pense. Et si les pauvres vieilles gens font résistance, aura-t-il tant de réserve et de scrupules qu'il ne les traite un peu à la façon des tyrans? Pour moi, je ne suis pas fort rassuré sur le sort des parents de ce jeune homme-là. Quoi donc, Adimante? Pour une courtisane, qui est à lui depuis hier, et à laquelle il ne tient que par un caprice, ou pour quelque adolescent, qu'il connaît à peine et qui n'est pour lui qu'un caprice aussi, tu crois qu'il irait jusqu'à porter la main sur sa mère, qui lui est chère depuis si longtemps, et qui lui est unie par un lien si sacré, ou sur son vieux père, le plus ancien et le plus nécessaire des amis? Tu crois qu'il osera les asservir à cette fille, à cet enfant qu'il aura introduit dans la maison paternelle? Oui, je le crois. C'est apparemment un grand bonheur d'avoir donné le jour à un fils de caractère tyrannique. Ah, il s'en faut bien. Mais quoi? Lorsqu'il aura consumé tout le bien de ses pères et mères, et que l'essaim des désirs qui s'est formé dans son cœur s'y sera multiplié, ne sera-t-il pas réduit à forcer des maisons, à dépouiller de nuit des voyageurs, à piller des temples? Cependant, les sentiments d'honneur et de probité qu'il avait dès l'enfance disparaîtront devant les passions nouvellement affranchies, qui servent de satellites à l'amour. Ces mêmes passions qui, à peine s'émancipait la nuit dans ses songes, du temps que lui-même obéissait encore aux lois et à son père, à l'époque démocratique de sa vie. Aujourd'hui que le voilà sous le régime tyrannique de l'amour, elles le mettront sans cesse, pendant la veille, dans l'état où il se trouvait quelquefois en dormant. Aucun meurtre, aucun horrible festin, aucun crime ne l'arrêtera. L'amour, vivant dans son âme en véritable tyran, sans frein et sans loi, comme en étant le seul souverain, le traitera comme le tyran traite l'état où il règne, et le poussera à toutes les extrémités pour qu'il trouve de quoi l'entretenir, lui et cette foule de passions tumultueuses qu'il traîne à sa suite. Les unes venues de dehors par les mauvaises compagnies, les autres nées au-dedans, et qui ont été déchaînées par leur propre audace ou affranchies par lui-même. N'est-ce pas là la vie que mènera ce jeune homme? Oui, Socrate. Or, si dans un État, il ne se rencontre qu'un petit nombre d'hommes semblables, au milieu d'une population honnête, ils sortiront du pays pour aller se mettre au service de quelques tyrans étrangers, ou pour se vendre comme auxiliaires s'il y a la guerre quelque part. Ou s'il y a partout paix et tranquillité, ils resteront dans leur patrie et y commettront un grand nombre de petits maux. Lesquels? Par exemple, voler, forcer des maisons, couper des bourses, dépouiller des passants, piller des temples, faire capture et trafic d'esclaves. S'ils savent parler, ils feront le métier d'accusateurs, de faux témoins, de prévaricateurs prêts à se vendre. Voilà donc ce que tu appelles de petits maux, tant que ces hommes seront en petit nombre. Oui. Les petites choses ne sont-elles que par comparaison avec les grandes? Et tous ces maux, mis à côté de la dépravation et de la misère d'un État qui a affaire à un tyran, ne seront, comme on dit, que bagatelles. Mais quand il y a dans un État beaucoup d'hommes de ce caractère, et que leur parti venant à se grossir chaque jour de nombreux adhérents, ils sentent que la majorité est à eux. Ce sont eux qui, à l'aide de la démence populaire, engendrent le tyran, prenant pour cela celui d'entre eux qui a, dans son âme, le tyran le plus puissant et le mieux escorté. C'est en effet l'homme le plus propre au métier de tyran. Passe encore si on se soumet volontairement, mais si on résiste, alors, tout comme il a maltraité son père et sa mère, il saura bien, s'il est le plus fort, corriger son pays, en y introduisant de jeunes amis, et en leur tenant asservis, contre les droits de l'ancienne affection, cette mère et ce père qu'on appelle la patrie. C'est là qu'aboutiront les désirs du tyran. Sans doute, oui. Maintenant, n'est-il pas vrai que ces hommes, encore dans la vie privée, et avant d'arriver au pouvoir, se conduisent de la sorte? Ou bien ils ont des flatteurs prêts à leur obéir en tout, ou ils rampent eux-mêmes devant les autres quand ils ont besoin d'eux, et n'hésitent pas à jouer tous les rôles pour montrer leur dévouement, sauf à leur devenir étrangers dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils souhaitent. Rien n'est plus ordinaire, Socrate. Ils passent donc leur vie sans être amis de personne, sans cesse despotes ou esclaves. Pour la liberté et l'amitié véritable, le naturel tyrannique est condamné à ne jamais les connaître. Cela est vrai. Ne peut-on pas appeler ces hommes, avec raison, des hommes sans foi? Oui, Socrate. Et des hommes injustes à l'excès. Si ce que nous avons décidé ensemble précédemment sur la nature de la justice n'est pas une chimère. Oui, certes, ce n'en est pas une. Résumons donc le parfait scélérat. C'est celui qui réalise le portrait que nous venons de faire. Tout à fait.